Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Le chanteur Julien Clerc sera avec nous en studio pour la sortie de son album de duo qui s'appelle Duo et qui sort aujourd'hui. Et puis dans les indispensables, un anniversaire avec les 35 ans du célèbre manga Dragon Ball Z et de l'amour avec une expo au Palais de la Découverte. Bonjour Hélène Manarino.
Vandel, bonjour à tous.
Avant votre portrait inattendu de Julien Clerc, c'est d'abord votre journal de la culture. Journal qui démarre par un spectacle suspendu.
La comédie musicale « L'idole des jeunes » sur Johnny Hallyday était attendue le 18 décembre au Casino de Paris, à l'occasion des 2 ans de la disparition du chanteur. Mais le spectacle est suspendu. Un show qui mettait à l'honneur 24 chansons du Taulier avec plus de 30 personnes sur scène, chanteurs, musiciens, danseurs. Comme l'indiquait David Michel, créateur du spectacle, cette création était une odyssée de sa vie à travers ses chansons remises dans le contexte de leur époque. À aucun moment, la vie privée du chanteur ne sera abordé. Sauf que ça ne se passera pas comme prévu. Laetitia Hallyday souhaitait faire annuler le spectacle. C'est elle seule qui détient les droits de Johnny Hallyday. La garde rapprochée ne cautionnait pas non plus le show. Une action en justice pour utilisation frauduleuse de marque était envisagée. Alors la décision a été prise hier après-midi. La billetterie était déjà ouverte et les artistes n'ont pas été prévenus. Les dates de janvier sont toujours ouvertes pour le moment à la réservation et une tournée dans toute la France est attendu en février. Sachez que le spectacle qui remplacera l'idole des jeunes, c'est We Will Rock You.
Le musée de la Poste à Paris rouvre enfin ses portes.
Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi comme ses lettres et ses colis.
Il a été créé en 1973 et après 50 travaux. Vous pourrez dès demain contempler ce bâtiment rénové et en plus, c'est gratuit tout le week-end. 7 étages, 5000 mètres carrés, 500 mètres carrés d'espace d'exposition temporaire, 1000 mètres carrés pour l'exposition permanente. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir à l'intérieur ?
Des timbres.
Entre autres, je vous propose d'écouter la directrice du musée Anne Nicolas au micro de Louise Bernard.
On est forcément surpris de la diversité, de la richesse et de tout ce qu'emporte la Poste. Toutes ces dimensions émotionnelles, citoyennes, ludiques, numériques, qui viennent bien sûr s'ajouter aux dimensions historiques, muséales, la dimension artistique aussi. Il y a plein de choses à découvrir, vraiment entre histoire et modernité. Poussez la porte et acceptez de vous laisser surprendre.
Voilà, pousser la porte pour le musée de la Poste. Vous pourrez aussi contempler les 5300 timbres émis depuis 1849. Une place importante aussi est donnée aux relations de la Poste au monde de l'art. Alors, l'exposition Le musée de la Poste sort de sa réserve se tiendra jusqu'au 23 mars 2020.
Le Printemps de Bourges a dévoilé sa programmation.
La 44e édition aura lieu du 21 au 26 avril 2020. Les premières têtes d'affiche ont été annoncées hier et attention, c'est haut de gamme. Alain Souchon, qui a sorti le mois dernier son nouvel album Am 50s, Catherine Ringer, qui nous fera vivre de nouveau les Rita Mitsouko, sont annoncés aussi M, Roméo Elvis ou encore Isia. La chanteuse Suzanne, qui prépare son premier album, sera également présente. C'était l'artiste la plus programmée l'été dernier en festival avec 32 dates. Philippe Catherine, quant à lui, viendra avec tout son univers interpréter son album Confession. Côté électro, Sébastien sera présent et côté rap, Slonfoiré.
On termine par la 24e édition du Sapin de Noël des créateurs.
Démodé, pas démodé, vous savez. Hein.
Ça se passera ce week-end. Plusieurs grands noms de la mode, du design et de l'architecture mettent en avant leur savoir-faire pour la bonne cause. Réinterpréter le mythique sapin de Noël selon un thème précis. Et cette année, c'est glacier, cristal, polaire. Les marques présentes, Christian Dior, Elisab, Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, Swarovski, Chanel, Louis Vuitton, entre autres. Les créations seront exposées ce week-end à Paris, à l'hôtel Plaza Athénée. Et mardi soir, il y aura une vente aux enchères. Tous les fonds récoltés seront versés pour la recherche dans la lutte contre le cancer. Plus de 800 sapins de Noël ont été exposés durant les 23 premières éditions, donc des sapins de Noël des créateurs, ayant ainsi permis de récolter plus d'1 million d'euros.
Merci beaucoup Hélène Manarino, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et Philippe, on termine cette semaine en beauté puisqu'on accueille Julien Clerc.
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Est-il besoin de vous présenter ? Je vais donner quelques-uns des titres des chansons de votre nouvel album qui sort aujourd'hui. Ma préférence, Femme, je vous aime, Fais-moi une place, Mélissa, etc. Le disque s'appelle Duo et comme son nom l'indique, vous chantez en duo. Vous allez me dire ensuite avec qui. Si je me trompe, vous aviez toujours refusé un disque de duo. Pourquoi vous avez dit oui cette fois-ci ? Est-ce que c'est parce que vous fêtez vos 50 ans de carrière ou aucun rapport ?
Peut-être. Oui, peut-être. Et puis, à l'époque où on m'avait proposé, il y avait beaucoup d'albums de duo qui sortaient. Je ne savais pas comment trouver ma place au milieu de tous ces albums, dont certains étaient magnifiques du reste. Donc là, j'ai laissé passer un peu de temps. Et puis, j'y ai réfléchi pour que ce soit quand même... que ça fasse sens, que ce soit un album qui fasse sens sur le plan artistique et musical.
Et qu'on n'ait pas l'impression que c'est des ajouts pour faire un truc marketing.
Voilà.
C'était la grande mode marketing il y a 5, 10, 15 ans. Double question, comment vous avez choisi les personnes avec qui vous chantez ? Comment vous avez choisi les titres ? Et d'abord, vous avez commencé par quoi ou par qui ?
Oh, j'ai fait deux colonnes, j'ai envie de dire. J'avais la colonne des chansons qui me semblait devoir être... les chansons que j'appelle incontournables, c'est-à-dire en gros les chansons qui d'un tour de chant à l'autre ne quittent jamais la setlist. Et puis pour les artistes, ma foi des gens, des signatures vocales fortes
ouais.
Et des gens dont j'admire le travail en même temps.
Alors je vais les donner comme sur votre album, ces paroles alphabétiques, Carla Bruni, Francis Cabrel, Calogero, Philippe Catherine, Sandrine Kiberlin, Maxime Le Forestier, Christophe Maé, Florent Pagny, Soprano, Vanille, votre fille, Vianney et Zaz, rien que ça. On va entendre tout à l'heure en entier votre duo avec Francis Cabrel sur le titre Souffrir pour toi n'est,
par
pas,
toi.
Par toi n'est pas souffrir. C'est pas votre chanson la plus connue, pourquoi celle-ci ?
Non. Parce qu'elle me semblait être la seule à proposer à Francis, en fait.
Ah bon, pourquoi ? Et
Parce que j'en voyais pas vraiment d'autres qui pouvaient chanter, si vous voulez, et qui l'auraient accepté. Donc je l'ai appelé, parce qu'il fait pas ça souvent, Francis, et je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, je voudrais... Est-ce que tu accepterais de chanter avec moi ? Et il m'a dit très gentiment, il faut pas que ce soit trop compliqué. Donc je lui ai dit, écoute, la chanson, je ne pense pas qu'elle est trop compliquée, et je crois surtout qu'elle tirait bien.
Dans une interview, vous avez dit avec Francis Cabrel, nous ne nous connaissons pas, c'est vrai ?
Non, on se connaît, on se croise quand même, mais on se connaît bien. Oui, on est des copains, on va dire, mais enfin c'est...
J'étais très étonné, parce que dans l'imagerie, même dans la mienne, le showbiz, la chanson, c'est une grande famille, tout le monde se connaît.
Oui, vous avez raison, tout le monde se rencontre, et puis vous connaissez plus ou moins vos collègues. Mais avec Francis, ça fait longtemps qu'on se voit au Resto du Cœur. On a même chanté il y a des années dans une émission de télévision, on avait repris une chanson qui était déjà une reprise de Joe Dassin, qui s'appelait La Marie-Jeanne, et j'avais gardé un très 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 bon souvenir de ce duo-là, d'une émotion artistique sincère.
Fais-moi une place, c'est un texte signé Françoise Hardy. Vous reprenez ce titre avec votre fille Vanille. On va entendre...
Signé Françoise Hardy pour les paroles.
Ouais, et la musique, c'est vous.
Oui.
Évidemment, toutes les musiques de Julien Clerc sont de Julien Clerc. Fais-moi une place, Vanille, extrait.
Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime.
On s'était vu il y a 5 ans. D'abord, j'adore la manière dont se mêlent les voix, même si je n'ai pas mon avis à donner. On s'était vu il y a 5 ans, Julien Clerc, pour une interview. À l'époque, votre fille voulait se lancer dans la musique et vous disiez que vous étiez très sévère avec elle.
Oh non, enfin sévère, j'étais...
Oh, vous avez dit, même à match, vous avez dit, je ne suis pas sympathique du tout.
Non, mais j'ai essayé toute ma vie, jusqu'à maintenant, de ne pas déranger mes enfants, de les laisser pousser et qu'ils ne soient pas, gênés. Vous savez, être fils d'eux ou fille d'eux, c'est compliqué. Bon. Donc j'ai essayé qu'ils puissent grandir tranquillement. Là, elle a choisi ce métier. Je ne vous dis pas qu'il y a 2 ans, je lui aurais proposé de faire ce duo. Depuis, elle a fait son chemin, elle a écrit ses chansons, elle est auteur-compositeur, elle a pris sa maison de disques, elle a pris ses agents, elle a produit son disque avec ses arrangeurs, etc. Et aujourd'hui, j'ai plutôt invité l'artiste Vanille, mais c'est vrai que j'ai choisi une chanson qui, symboliquement, pouvait coller, si vous voulez.
Fais-moi une place, on a bien compris.
Voilà.
Sur beaucoup de titres, c'est vous qui chantez en premier. premier, puis ensuite vient la seconde voix du duo. Alors sur Mélissa, c'est l'inverse, c'est chanté avec Philippe Catherine. Alors c'est lui qui commence avec sa drôle de voix de Philippe Catherine. Et alors ce que j'ai adoré, c'est que Julien Clerc, vous êtes dans l'ambiance Philippe Catherine, vous le suivez, vous enchaînez.
Mélissa métisse dit vis-à-vis toujours des vêtus. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Mélissa me tue. Le matin derrière ses canisses alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu.
Vous prenez le petit accent de Philippe Catherine, non?
Ouais, les petites intonations. Mais, je vais dire que c'est vrai que je me suis adapté aux interprètes. Que nous avons sciemment dans les arrangements essayé de faire des écrins pour deux voix, ouais. Sans être dérangé éventuellement par des, sans faire de prouesses d'arrangement, si vous voulez. Je pense qu'un album de duo, c'est la rencontre de deux voix. Voilà.
Moi, j'attends un autre duo, Julien Clerc, Hélène Manarino.
Oui, c'est dans un instant sur Europe 1. Hélène Manarino qui a mené son enquête pour nous dresser, Julien Clerc, votre portrait inattendu sur Europe 1. On a hâte d'écouter Hélène.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
J'ai annoncé un duo, le voici. Julien Clerc, vous connaissez Hélène Manarino?
Oui.
Hélène, c'est à vous.
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Alors je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore sur vous, qui se cachent derrière le bonhomme que les Français suivent depuis plus de 50 ans. Bonhomme, surnom que votre père vous donnait, en alternance avec Polo, surnom attribué cette fois par vos amis. Alors grand bonhomme Julien Clerc, vous avez toujours été le chef de file, aller de l'avant, toujours tout droit, avec vous, pas de pas de côté. Alors si oui, c'est pour une direction encore plus belle. Bref, toujours, tout est toujours très cohérent, un mot clé de votre vie. Alors en avant, Julien Clerc, ce matin, et on commence par un petit retour en arrière. Le chef de bande des enfants. Il fallait vous suivre. Petit, vous détestiez les salsifis et les choux de Bruxelles. Et vous aviez réussi à convaincre vos frères que c'était immangeable avant même qu'ils ne goûtent. Tout le monde vous a suivi, tout le monde vous a cru. Et ils en ont jamais mangé. À l'initiative de plusieurs jeux de rôle avec votre frère Gérard, les règles, c'était vous. Vous étiez le général, il était le soldat. Sa fille est droit, un frère avec qui vous collectionniez les paquets de cigarettes. Vous étiez persuadé que lui collectionnait tout seul, en cachette, les croûtes de fromage. La musique, c'était vous, vous qui vous en occupiez dans la maison familiale. Rien d'étonnant que c'est cette direction que vous avez choisie. Alors Julien Clerc, partir, partir oui, surtout à Granville et à chaque week-end de la Pentecôte. Toujours dans le même hôtel en famille, avec deux objets, une pelle et un filet pour pêcher les crevettes. Que vous avez dû assumer gare Montparnasse à Paris, même à l'âge de 17 ans. Et oui, quand c'était le départ non. pour Granville, c'était avec la pelle à la main, non. peu importe l'âge et devant tout le monde.
C'était la honte dans le train, Julien? Ça, ouais, un peu.
Oui, mais enfin, notre père savait nous imposer ça.
Hélène.
Tenez les gares, votre hantise, surtout loupez le train, vous êtes très très en avance à chaque fois. Vous êtes capable d'arriver une heure et demie avant l'horaire du train, peu importe la destination. Une famille qui vous suit à chaque fois, derrière vous dans cette exigence. Derrière vous aussi quand il s'agit des randonnées pédestres que vous organisez. Vous filez tout droit en marchant très très vite, dans vos pensées, et votre famille peut se retrouver non. à des kilomètres derrière vous.
C'est vrai?
Alors, pas des kilomètres.
Mais des centaines de
des
mètres.
Des centaines ouais. de mètres.
Enfin, ils vous ont perdu, quoi.
Aujourd'hui, ce que vous préférez, c'est prendre le large, nager très loin, en crawl, avec votre tuba frontal. Mm-hmm. Alors, Julia Clerc, quand quelque chose vous déplaît, vous prenez aussi les devants. Vous avez pratiqué, il y a quelque temps, de l'équitation. Vous avez fait des concours hippiques, amateurs. Votre fille Vanny vous accompagnait. Sauf que dans ces concours, tout le monde vous reconnaissait. Ah ouais. Tout le monde vous demandait des autographes. Donc, impossible pour vous de vous concentrer sur votre compétition. La solution, quand vous alliez vous présenter au jury, vous donniez un autre nom, celui de votre frère, Gérard. Et vous portiez un bob aussi, en baissant la tête, ouais. en marchant, pour ne pas être embêté. Et on entendait, quand c'était votre tour, Gérard Leclerc en piste.
J'aurais bien aimé vous voir avec un Bob Ricard.
C'était une époque... J'étais marié avec une cavalière, donc j'ai fait longtemps de l'équitation, j'ai fait des concours hippiques, pas le haut niveau évidemment. Et en plus, effectivement, c'est vrai, en plus de la peur et de l'appréhension de sauter des obstacles qui vous semblent souvent bien gros, il y avait cette peur d'être reconnu et de rater, d'être éliminé, ce qui m'est arrivé un certain nombre de fois.
C'est la loi du genre. Hélène.
Les chevaux vous ont donné de l'élan, mais ce ne sont pas les seuls. Vous êtes aussi attaché à un autre animal.
Kangourou, kangourou. Mon gentil petit kangourou.
Le kangourou de Charles Trenet, chanson que vous chantiez beaucoup à l'une de vos filles, entre deux parcs des princes. Aujourd'hui, c'est activité guitare avec votre petit garçon, comme ça il prend de l'avance. Et puis surtout, vous étiez en retard, mais ça y est, vous vous êtes mis au jeu de société, Julien Clerc, le Cluedo et le Yams.
Quand vous savez tout ça,
hein. C'est trop de choses.
Alors tout ce que vous préférez, vous, ce sont les mots croisés du journal Le Monde que vous faites tous les jours.
Et vous les finissez ?
Ah oui,
waouh, bravo.
Mais vous ne perdez jamais de temps avec vos enfants. La première chose que vous faites comme un vrai chef de famille, c'est d'appeler vos enfants quand vous sortez de scène pour savoir s'ils vont bien et s'ils ont bien mangé.
Non.
Manger d'ailleurs, Julien Clerc. Vous aimez passer du temps dans votre cuisine, chef de brigade, mais en étant seul. Parce qu'en cuisine, ça file droit, des pâtes au thon en un temps record ou au saumon. Les courses, c'est tous les jours. Vous vous occupez de tout. De vous aussi, en faisant attention à votre ligne. Alors parfois, il y a un petit contretemps ou un pas de côté. La route peut être semée d'embûches quand, après avoir épluché vos pommes devant un match de foot, vous vous jetez sur votre piano et donc votre compote brûle.
Ça m'arrive, c'est arrivé. Ouais. Ouais.
Julien Clerc, chez vous, vous laissez la place aussi à quelques fantaisies, prévoyant toujours du dentifrice et brosse à dents d'avance. Et vous avez aussi votre collection de boîtes de lentilles de contact.
Non.
Vous en avez 25, mais vous avez réussi à faire le tri il y a quelques jours.
Mais attendez, parce que moi je m'énerve. À quoi ça sert d'avoir une collection de lentilles de contact ?
Non, parce qu'à chaque fois qu'on achète du liquide pour lentilles, il y a une boîte avec.
C'est les petites boîtes blanches.
Les petites boîtes blanches.
Ce type est un malade, Hélène.
Une vie avec des rêves. Le prochain, prendre la direction du Japon pour un voyage. Alors, bonhomme Julien Clerc, vous êtes aussi le chef des blagues. Comme lors des 10 ans de mariage de votre frère, une fanfare était présente. Vous n'avez pas hésité une seule seconde pour leur demander en cachette de revenir le lendemain matin, réveiller tout le monde à 6h.
Oui, c'est vrai.
Et puis...
C'est une mauvaise blague.
Ouais.
Mais
il arrive.
Sympa. Une mauvaise blague.
Est-ce qu'il a ri ? Le frère ?
Il a ri, oui, parce qu'il a de l'humour. Ouais. Il y en a qui ont moins ri, ceux qui avaient dormi sous la tente, puisque mon frère les avait mis sous la tente, parce qu'il n'avait pas de la place pour tout le monde. Et évidemment, inutile de vous dire que les organisateurs méchants de cette blague douteuse, c'était Guillaume Durand et moi-même qui dormions à l'hôtel, évidemment.
Hélène.
Et puis des blagues que l'on vous a faites aussi, une histoire que votre fille Vanny adore avec le titre This Melody, où vous chantez notamment cette phrase.
Dans ce pays.
Lors d'une fête organisée chez vous pour la sortie du single, Coluche est arrivé avec un bocal rempli de noyaux en l'honneur de cette phrase et de vos origines aussi.
Ce qui prouve qu'il écoutait les paroles.
C'est bien.
Alors Julien Clerc, finalement, vous avez toujours su ce que vous vouliez, sans jamais de regrets. C'est donc tout droit, vous savez si c'est oui ou si c'est non. Pas de demi-teinte, en toute intégrité. Vous dites souvent, il faut savoir tourner les pages et avancer. Alors depuis 50 ans, nous les tournons avec vous, sans aucune envie de refermer le livre.
Merci beaucoup, merci Hélène. D'habitude, vous savez, Julien, les invités ont les larmes aux yeux.
Voilà,
et cette fois-ci, c'est Hélène qui a les larmes aux yeux.
Non, ce que je me demande, qui a balancé ?
Il faut que j'explique pourquoi.
Allez, expliquez, dites pourquoi.
Parce que je m'appelle Hélène, suite à votre chanson,
ouais.
Et mon papa s'appelle Léonard. Voilà, comme votre fils.
Je suis pas Hélène.
Hélène très émue. Vous restez avec nous, Julien.
Oui,
Hélène, on vous
plaisir.
Retrouve lundi. Et on vous embrasse. Bon week-end.
La suite de Culture Média, c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour avec Clément Le Saffre et Louise Bernard. On y vient dans un instant avec notre invité, Julien Clerc, qui sort aujourd'hui son nouvel album, un album qui s'appelle Duo.
Et je l'ai dit avec Calogero, Soprano, Maxime Le Forestier, Christophe Maé, Florent Pagny, Safi Vanni, Zaz et bien d'autres. Est-ce qu'il y a parfois des invités qui n'étaient pas d'accord avec votre choix de chanson ?
Non, mais, par exemple, Christophe, je lui ai proposé une autre chanson.
Christophe Maé.
Christophe Maé, il m'a dit non, écoute, moi, je voudrais faire Utile.
Voilà.
Ouais. Donc, à tous, je leur disais, dites-moi, il y a quelque chose que vous aimeriez chanter, et j'essaierai de vous satisfaire. Et, mais par exemple, bon, Vianney m'a dit, moi je voudrais faire Femme, je vous aime, donc voilà, ça tombait bien.
Ouais, mais il l'a fait à sa manière.
Il l'a fait à sa manière, enfin il m'a dit très gentiment, m'a dit, je suis ravi de venir demain, je n'aime pas complètement l'arrangement, je lui ai dit, écoutez, venez. Chantons et repartez avec les bandes. Je ne peux pas vous dire mieux. Il est parti avec les bandes et il a, chez lui, il a changé certains trucs et puis il m'a renvoyé sa version que j'ai adorée d'ailleurs, donc on l'a gardée.
À la guitare. Est-ce qu'il y aura des inédits ? Est-ce que vous avez enregistré des titres qui ne sont pas sur l'album ?
Non.
Bon, voilà.
J'ai profité de ces séances-là pour enregistrer un titre qui n'est pas un duo, qui sera sur le prochain album inédit.
D'accord, je viens de comprendre. Ça ne pouvait pas mieux tomber, l'enchaînement. Il y a tellement de chansons d'amour dans l'histoire de Julien Clerc. Louise Bernard, on va parler...
Bonjour Philippe, bonjour,
bonjour
à tous.
Louise. On va parler d'amour ce matin, grâce à une expo que vous nous conseillez. Ça se passe au Palais de la Découverte, qui porte vraiment bien son nom, et elle s'appelle De l'amour.
Mais oui, je me suis dit, comme c'était vous, Julien Clerc, notre invité, hein, comme vous le disiez, Philippe Vandel, c'était une évidence de parler de cette exposition ce matin. Et donc, il est possible en ce moment de tenter de décrypter, de comprendre, d'expliquer ce sentiment universel, l'amour, d'un point de vue scientifique. Pour ça, direction le Palais de la Découverte. Alors, dès le début de l'exposition, il est expliqué que le mot amour en français, ça englobe plein de sentiments différents, en fait, contrairement au grec, qui distingue bien la passion avec le mot éros, de l'amour filial, storgé, agapé, l'amour désintéressé, et philia, l'amitié, le lien social. Donc, c'est bien de toutes ces formes d'amour dont il est question, pas que la passion.
À quoi elle ressemble concrètement, cette expo ? Qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, vous commencez par entrer dans la galerie des attachements, c'est joli. C'est la partie poétique de l'exposition. C'est des citations, des objets, des photos, des sons, des films, des références culturelles qui sont là pour illustrer les différentes formes d'attachement dont je vous parlais. Il y a même une collection de doudous, voilà, ça c'est pour l'attachement. Ça c'est un peu l'introduction, puisqu'ensuite vient le cœur de l'exposition et c'est la galerie des sciences. L'approche scientifique, c'est toujours ce que propose le Palais de la Découverte, mais c'est original de le faire pour un sujet comme l'amour. On écoute l'une des commissaires de l'exposition, Astrid Aron.
C'est assez nouveau d'avoir cette approche scientifique de l'amour. Il se trouve que les artistes, les écrivains, ça fait des millénaires qu'ils s'y sont mis. Les scientifiques, c'est beaucoup plus récent. On pourrait penser que le fait d'étudier scientifiquement l'amour, ça va briser le mystère de l'amour et donc toute sa magie. Mais je ne crois pas qu'on arrive à enlever tous les mystères.
Alors justement, quel mystère l'exposition dévoile-t-elle alors ?
Par exemple, on comprend pourquoi on a les mains moites, les petits papillons dans le ventre quand on est amoureux au début. En tout cas. Le vrai organe de l'amour, ça n'est pas le cœur, c'est le cerveau, c'est moins poétique. Ces zones qui s'activent avec l'amour ou qui parfois s'anesthésient. Les approches scientifiques sont variées. Oui, il y a de la neurologie, la chimie, on parle d'hormones par exemple, mais il y a aussi la psychologie, la philosophie, la sociologie. On décrypte par exemple l'amour en ligne. On nous explique qu'il y a une étude qui montre que les réseaux sociaux n'ont pas révolutionné les rencontres. En fait, on continue de former des couples du même milieu social, même en passant par Internet. Et puis, impossible de faire l'impasse sur la sexualité, ça va avec l'amour. Mais la difficulté, c'est que c'est un lieu, le Palais de la Découverte, qui attire un jeune public. Il y a beaucoup d'écoles qui viennent visiter les expositions. Donc, il a fallu se creuser la tête pour trouver la bonne manière d'aborder ce thème.
On s'est posé beaucoup de questions pour surtout la façon dont on allait en parler. Donc, ce qui était important pour nous, c'est d'avoir une justesse scientifique dans les propos. Et surtout de ne pas aller trop loin pour ne pas briser l'imaginaire des jeunes oreilles qui seraient là et des jeunes yeux. Et pour ça, on a toujours utilisé de la poésie, des représentations très schématiques, tout en ayant des propos précis, et puis l'humour. Et c'est par ces biais-là qu'on arrive à dire des choses précises et justes.
Alors, j'ai pu vous donner que quelques petits exemples de ce qu'on pouvait apprendre dans cette exposition. Je ne peux pas tout vous dévoiler tellement elle est très riche. Et puis, c'est extrêmement ludique. C'est la marque de fabrique du Palais de la Découverte. Je vous ai parlé d'études, de sciences, de théories, mais à chaque fois, c'est très accessible, visuel, participatif. Il y a même des petits jeux.
Donc, on peut y aller avec les enfants ?
Je dirais plutôt les ados. D'ailleurs, l'exposition, c'est conseillé à partir de 15 ans. Ça peut être un peu avant, mais le risque pour les plus jeunes, c'est que ça ne les intéresse pas forcément.
Merci beaucoup, Louise, d'avoir jusqu'au 30 août. C'est la dernière expo avant la fermeture du Palais de la Découverte pour travaux. Et puis Louise, on salue Caroline, votre maman, qui est fan de Julien Clerc.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est Julien Clerc qui est notre invité ce matin et on continue à faire le tour de nos indispensables du jour avec Clément Le Saffre, Philippe.
Julien Clerc, vous êtes écouté au casque dans le duo avec, oui. Francis Cabrel.
Oui.
C'était par plaisir ou est-ce que vous faites, comme certains pros, une écoute critique?
Oui, je fais une écoute critique.
Alors, il est comment
sur
ce morceau?
Mixage.
Alors, il est comment le mix?
Je pense que le mix, c'est ce qu'on voulait. On voulait mettre les deux voix en avant et qu'on sente l'émotion. Moi, j'ai eu une émotion quand Francis s'est mis derrière le micro, qu'il a ouvert la bouche. Et c'est ce genre d'émotion, je trouve, qu'une voix peut procurer. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi.
Et d'un mot, vous voulez nous dire quelque chose sur l'amour?
Oui, non, juste pour résumer ce joli sujet sur cette exposition, Lagerfeld me disait toujours, pour que deux personnes s'entendent bien, il faut que ça marche, donc ça résume votre papier, il faut que ça marche là, là et là.
Alors il a montré sa tête, son cœur et comment voilà. Je peux dire, j'ai pas vu, c'était sous la table. J'ai pas vu que vous aviez la main. Comme on dit à Lyon, t'as l'esprit ou j'ai la main. Deuxième indispensable du jour avec vous Clément Le Saffre. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous allez nous parler de manga, les BD japonaises en noir et blanc qui se lisent à l'envers, mais pas n'importe quel manga.
Oui, un manga qui est tellement connu que je vais tout simplement me taire et laisser parler la musique. Alors, vous aurez évidemment reconnu le générique de Dragon Ball, hein,
évidemment.
C'était dans le club Dorothée avec la voix d'Ariane, hein, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. On était à l'époque en 1988, la France s'ouvrait au manga grâce au dessin animé justement, et parmi eux Dragon Ball donc, qui allait devenir un phénomène planétaire.
Et je m'en souviens très très bien, je me souviens que des députés socialistes voulaient faire interdire les mangas
Absolument.
À la télé. Mais pourquoi vous en parlez aujourd'hui Clément?
Eh bien parce que Dragon Ball vient de souffler ses 35 bougies.
Non,
déjà,
le
ça ne rajeunit pas. Le tout premier chapitre du manga, il a été publié le 20 novembre 1984 au Japon. Un premier chapitre dans lequel on découvrait Sangoku, un gamin avec une queue de singe et des cheveux en pétard. Et une fois adulte, il s'est révélé être un guerrier de l'espace surpuissant destiné à protéger la Terre. Sangoku, il a tout un tas de super pouvoirs, une force surhumaine, la téléportation et surtout, il peut projeter des rayons d'énergie et là encore, c'est complètement culte. Alors là, les deux mains collées l'une à l'autre, tous les enfants qui étaient fans, qui regardaient les dessins animés, ont au moins essayé une fois d'imiter les attaques de Sangoku dans les combats épiques de Dragon Ball. Mais la vraie force de ce manga, c'était ses héros qui étaient hyper attachants. Il y avait de l'amitié, il y avait de l'amour aussi avec les personnages féminins qui n'étaient pas très nombreux malheureusement. Et puis il y avait Sangoku qui était très cool, il y avait son fils Sangohan qui était très drôle, un peu maladroit, son rival Vegeta, très bonhomme, et puis tant d'autres qui sont devenus immortels pour
les
fans.
Vous en parlez avec des étoiles dans les yeux, ça a marché tout de suite?
Pas exactement, hein, ça peut être étonnant vu le succès aujourd'hui, mais les premiers chapitres n'ont pas été bien reçus. Vous savez, au Japon, quand un manga paraît dans les magazines, il est noté par les lecteurs et au début, il n'y avait pas des très bonnes notes. Ils n'aimaient pas trop Sangoku, le lecteur le trouvait un peu fade, ils n'aimaient pas trop l'histoire. Alors Akira Toriyama, qui est l'auteur de ce manga, il a étoffé un peu la personnalité du gamin, il l'a rendu plus drôle et il a introduit un tournoi d'arts martiaux et là, succès immédiat, plein de combattants en couleur qui ont séduit tout le monde et au total, ça a donné 42 tomes de Dragon Ball, pas moins, écrits en 11 ans quand même, c'est une belle histoire. Mmh. Ils ont été vendus, rendez-vous compte, à 250 millions d'exemplaires dans le monde en 3 décennies.
Si tu touches $1 par livre.
C'est un peu moins que ça, parce que ça coûte pas très cher en plus les mangas, donc il faut en vendre énormément. Donc c'est vrai qu'arriver à 42 tomes, c'est assez rare. Et donc Dragon Ball, il y a eu tellement de succès qu'ensuite il y a eu 6 séries d'animation et une vingtaine de films. Chaque génération finalement a eu son Dragon Ball.
Alors il reste quoi justement de Dragon Ball aujourd'hui?
C'est une œuvre qui a imprégné complètement la culture populaire. Les enfants des années 80 ont grandi avec, ceux des années 90 aussi, ceux des années 2000 aussi. Résultat, les stars d'aujourd'hui, les footballeurs, les acteurs ou encore les artistes, ils revendiquent fièrement d'avoir grandi avec Dragon Ball, ils s'en cachent plus. C'est particulièrement le cas dans le rap. Depuis des années, les rappeurs font appel à Dragon Ball pour colorer leurs textes et distiller des punchlines.
Comme Vegeta, le super guerrier de l'espace, j'ai mauvaise réputation et un cœur de glace.
Même mes ennemis s'en apercevront. Moi, je suis comme Goku, j'ai le cœur souffrant.
Ah oui, c'est nous-mêmes des 11 qui chamboulent le monde, puis retournent dans la pénombre comme Boubou ou bien Sangoku.
Allez, il fallait reconnaître dans l'ordre Doc Gynéco, bien sûr, Nekfeu et Dadju, que vous receviez la semaine dernière.
Oui, j'ai reconnu sa voix tout de suite. Et aujourd'hui, c'est encore populaire ?
Complètement. Pour vous donner une idée, l'an dernier, le tome 3 de Dragon Ball Super, c'est la suite de la série originale.
Ouais.
C'était le manga le plus vendu en France. Plus de 100 000 exemplaires pour seulement le tome 3, sachant que le tome 4 était le troisième le plus vendu. Et le dernier film, Dragon Ball Super Broly, il est sorti en mars au cinéma. Et bah, c'est 500 000 personnes qui sont quand même allées le voir en salle. C'est pas mal. Comme quoi, bah, la folie de Dragon Ball, elle n'est pas prête de s'arrêter.
La tête de Julien Clerc, ça vous parle Dragon Ball ou pas du tout ?
Oui, ben ça me parle, ouais. Sauf que moi je suis plutôt Tintin. Mais
ouais. Et le rap, qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment ?
J'écoute tout.
J'écoute tout. J'ai lu une interview de vous qui m'a vraiment passionné. Vous avez dit j'écoute toutes les musiques, même celles qu'a priori je n'aimerais pas.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Qu'est-ce que vous écoutez comme genre musical que vous n'aimez pas pour faire
quand
des
même
découvertes
pour voir, le rap en particulier, ce qui n'est pas que de la chanson.
Ouais.
Mais j'écoute quand même tout ce qui sort, tout ce que font mes collègues et de mon âge et les plus jeunes. Voilà. C'est d'abord parce que j'aime la musique, que j'ai toujours aimé la musique et les musiques différentes et qu'il y a à écouter, à entendre et pourquoi pas apprendre dans toutes les musiques.
Votre fiston, il a quel âge ?
Il a 11 ans.
Il est à Londres. Est-ce que c'est le même univers culturel en Angleterre qu'en France ? Qu'est-ce qui marche dans les cours d'école en ce moment en Angleterre, à Londres ?
Oh, il y avait en particulier une chanson, comme il sort régulièrement sur les ondes anglaises, une chanson plutôt inspirée, enfin jamaïcaine, si vous voulez. Il y a eu un truc là qu'ils ont chanté tous dans les cours d'école qui est dans la tradition jamaïcaine.
Mais est-ce qu'ils sont au manga pour faire le lien avec ce que disait Clément Le Saffre ? Qu'est-ce qu'il aime, lui, comme son univers
Lui, écoutez, j'ai fait un fils, Dieu merci, qui a un esprit très ouvert et qui lit absolument de tout. Mais quand il y a un journal auquel il est abonné, qui s'appelle Beano, B-E-A-N-O.
C'est quoi, comme les haricots ? Bean, c'est un haricot.
Beano, oui, mais ouais. Là, c'est Beano.
Et ça parle de quoi ?
Je ne sais pas, il y a des BD là-dedans, mais je sais que ça, c'était un des journaux que lisent les pré-ados anglais. Ouais.
Beano, ça donne envie de découvrir. Vous restez avec nous, Julien Clerc, on va continuer à vous découvrir.
Oui, pour cette dernière partie de Culture Média qui arrive dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est la dernière partie de Culture Média avec notre invité Julien Clerc qui nous parle de son actualité, notamment de son nouvel album qui sort aujourd'hui, Duo au pluriel, Philippe.
Julien Clerc, à l'instant, on parlait du Japon, de la culture des mangas, de la culture japonaise, et vous me disiez, j'ai lu un roman absolument formidable d'une japonaise.
C'est pas un manga, hein.
Je sais, c'est un roman, c'est un vrai roman raconté.
Mais non, mais c'est Ito Ogawa qui fait le deuxième livre d'elle que je lis. Le premier s'appelait Le restaurant de l'amour retrouvé, qui est formidable.
Un très beau titre.
Et puis là, ça s'appelle La librairie, quelque chose.
La papeterie de Tsubaki.
La papeterie, c'est formidable.
La culture de Louise Bernard m'impressionnera toujours.
Personne
n'avait deviné. Qu'est-ce que ça raconte ?
Les 5 derniers livres que je...
Qu'est-ce que ça raconte et pourquoi ça vous a séduit à ce point ?
C'est très japonais. C'est très des ambiances, en fait. Ça ne raconte pas. En fait, si, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est écrivain public et qui tient ça, qui tient cette boutique, elle tient une papeterie, mais elle est en même temps écrivain public. Donc on vient la chercher pour lui faire écrire des lettres que les gens n'arrivent pas à écrire eux-mêmes pour différentes raisons. Donc il y en a un, c'est pour refuser quelqu'un à qui on emprunte de l'argent qu'il n'a pas envie. Donc il lui demande d'écrire la lettre où elle explique pourquoi il ne prêtera pas l'argent. Une autre qui a perdu son amour et qui veut écrire dans l'au-delà, c'est une lettre à la personne qu'il a le plus aimé sur Terre, etc., etc. C'est un très, très joli roman et c'est très japonais parce que les Japonais, c'est souvent de l'ambiance, c'est souvent du climat comme ça, c'est peu palpable et très beau, comme leur film d'ailleurs.
Elle s'appelle Ito Ogawa, mais c'est Louise Bernard qui connaît le titre par cœur. Louise ?
J'ai déjà oublié. La papeterie de Tsubaki,
Tsubaki. Oui.
Autre actualité pour vous, Julien Clerc, le 29 novembre, c'est-à-dire vendredi prochain sur France 3, toute une soirée vous est consacrée. D'abord un grand concert au Théâtre du Châtelet. Là encore, beaucoup d'invités. Calogero, Soprano, Maxime Le Forestier, Christophe Maé, Florent Pagny, votre fille Vanny, mais aussi Marc Lavoine, Yannick Noah, Clara Luciani. Pourquoi ils ne sont pas sur le 10 de duo ?
Bah parce qu'il n'y avait que 12 places pour le disque de duo.
Oh, c'est pas vrai. On dirait un Renault Espace. Non, je ne peux pas te prendre, désolé.
Et puis là, on est dans une émission de télévision. Tous les gens qui ont fait, sont sur le disque n'ont pas pu venir. Ouais. Donc il y a d'autres gens qui auraient pu participer, vous avez raison, tout à fait à ce disque. Il y a aussi un très joli duo avec Slimane, ouais, qui est un très bon chanteur.
Et puis, il y aura aussi un long documentaire que vous a consacré Pascal Fornery, Nos années Julien Clerc. J'avais jamais vu ça de ma vie. Vous dites avoir donné une longue interview de 12 heures.
Non, c'est parce que j'ai tenu. Non,
parce que 12 heures d'interview, même Fidel Castro ne l'a fait pas les 12 heures.
Non, mais j'ai été inspiré. Vous savez, il y a quelques années, j'avais vu sur la 3 un merveilleux documentaire sur Robert Badinter, ouais, qui était véritablement très beau et très pur, j'ai envie de dire. Et je pense dur, en fait, au fond de ma pure et dure. Ouais. Et c'était des photos fixe et une voix off. Et c'était absolument magnifique. Et donc là, je me suis dit que la radio, que l'interview qu'on peut faire quand on n'a pas une caméra en face de soi, on se livre plus facilement. Donc j'ai demandé à Pascal Fornery que toutes mes interventions à moi soient des interventions en voix off.
Quel enchaînement, parce que j'avais prévu de vous faire une question, Jacques Chancel. Si Jacques Chancel était encore de ce monde, il vous demanderait, Julien Clerc, 50 ans de carrière, quand on se retourne sur 50 ans de carrière, qu'est-ce qu'on voit? Faites-moi court parce qu'après j'ai une petite histoire à vous demander.
Oui, non, bah, écoutez, on voit de la musique. Principalement, j'ai choisi ce métier pour la musique et je suis heureux d'avoir vécu pour et par la musique.
Pour finir, j'ai découvert en préparant cet entretien que lorsque vous jouez dans une arène, vous racontez toujours au public...
Pas toujours, mais ça m'est arrivé.
Une histoire de taureau que vous a apprise Serge Gainsbourg.
Oui, c'est vrai, c'est une des histoires préférées de Serge et racontable, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas racontables. Et donc, c'est un zèbre qui rencontre un taureau et le zèbre, il dit, mais alors à quoi tu sers dans la vie? Et le taureau lui dit, enlève ton pyjama, tu vas voir à quoi je sers.
Merci Julien Clerc, merci Serge Gainsbourg, merci Clément. Ah voilà, Mélissa qui revient avec nous. Merci Louise Bernard et votre savoir universitaire flamboyant. Merci Céline. Nous on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média avec Valérie Benaïm et Pascal Légitimus. Bon week-end, à lundi. Merci encore Julien.